J'avais une question, moi, monsieur.
Oui.
Ouais, merci, c'était très intéressant. Alors, une question, est-ce que la finance islamique privilégie l'investissement dans des actifs détenus par des musulmans ou pas? Ça
Non, pas
rentre
du
pas en
tout.
compte.
Pas du
Pas
tout.
du tout. OK. Sous réserve que ça respecte les
N'importe.
principes, évidemment.
Oui, n'importe quel actionnaire, n'importe qui peut être client déposant, n'importe qui peut être client emprunteur. Il n'y a aucun ostracisme lié à une pratique religieuse ou même à une affiliation ou à une tradition quelconque.
Deuxième question, qui certifie, enfin qui délivre le label halal, entre guillemets?
Très bien, ce sont les conseils de jurisconsulte, qu'on appelle en anglais les charia boards. Ils sont en général composés de trois spécialistes du droit musulman des contrats, qu'on appelle aussi le droit musulman des affaires, en arabe, fiqh al-mu'amalat.
C'est-à-dire que pour être jurisconsulte, il faut une connaissance du droit musulman qui est extrêmement forte. Ce sont parmi les meilleurs
Oui.
connaisseurs du.
Alors, minimum, c'est 8 ans d'études de droit.
C'est vraiment les
Dans les
plus.
plus grandes universités.
Ouais.
Les plus grandes universités.
Ah.
Doublé d'un MBA pour la plupart de tous les jurisconsultes, doublé d'un MBA en finance dans des universités canadiennes, américaines ou européennes. Ils ont une double compétence. Ils ne sont pas que spécialistes en droit, ils sont aussi spécialistes en finance. Mais leur compétence principale reste quand même le droit musulman des affaires.
Je crois qu'il y a Tarek Bengaraï qui est jurisconsulte qui intervient chez nous, il me semble. Hein?
Tout à fait.
Tarek Abounour.
Tout à fait. Il est membre de conseil de jurisconsulte. Ce n'est pas le membre en chef, puisque il n'est pas encore suffisamment capé. Mais les jurisconsultes que nous avions, pour citer un exemple, de publicité pour personne, mais chez The Bank of Tokyo Mitsubishi, nous en avions trois, un Émirien, un Saoudien, un Bahreïni. Tous les trois avaient un PhD en droit musulman et un MBA en finance. Tous les trois.
Toi-même, tu es jurisconsulte ou pas?
Non, je ne
Ah
certifie
non.
rien, je ne certifie aucune opinion juridique. Je ne fais que de la technique.
D'accord. T'as pas envie ou?
Je n'ai pas les compétences pour cela, Xavier.
T'as pas l'envie d'acquérir les compétences?
Ça prend trop de temps.
D'accord. Bonsoir. Vous expliquiez qu'il y avait une différence suivant les écoles juridiques ou suivant les options. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que ça veut dire, par exemple, entre une banque qui suivrait le droit chiite par rapport à une banque qui suivrait le droit sunnite?
Oui, bien sûr. Alors, ça ne porte pas sur l'ensemble des transactions, bien évidemment. Ce sont des débats de jurisconsulte à la marge. Mais prenez par exemple, je ne sais pas si vous êtes familier des transactions financières, mais prenez par exemple les contrats de couverture, qu'on appelle en anglais les contrats de hedging. On se couvre par exemple contre la volatilité d'un prix, la volatilité d'un taux de profit, d'un taux de marge. Ce contrat, on l'appelle en finance islamique wad, c'est une promesse. Eh bien, figurez-vous que les chiites ne reconnaissent pas ce contrat. Les sunnites, si. L'autre chose qu'on retrouve chez les malikites et pas chez les chaféites, donc les malikites, c'est l'Afrique du Nord, les chaféites, c'est l'Asie du Sud, les contrats d'achat et de revente, donc les contrats commerciaux, chez les chaféites, peuvent porter sur n'importe quel bien, y compris des matières premières. En revanche, chez les malikites, ces contrats commerciaux d'achat et de revente financés par la banque peuvent porter sur n'importe quel produit sous-jacent, sauf les matières premières. Donc vous avez ainsi, dans la finance islamique, des points de frottement, des points d'achoppement et l'impossibilité de créer un consensus. Et il n'y a pas d'autorité supra-législative je dirais, nature constitutionnelle, à même de faire converger les opinions juridiques. Donc, la finance islamique marocaine n'est pas exactement équivalente à la finance islamique turque, qui n'est pas exactement équivalente à la finance islamique iranienne. Ce qui se pratique à Vesoul ne se pratique pas à Montpellier. C'est terrible. Et donc, on est obligé de faire de la finance islamique fragmentée. Parfois. C'est dommage.
Question.
Oui.
Je peux, vous m'entendez?
Oui.
Merci beaucoup de votre conférence, passionnante. Je voulais poser une question politique. Face actuellement aux nouveaux accords entre Israël, les différents pays que vous avez cités, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Bahreïn, le Maroc, comment voyez-vous l'évolution de la finance islamique?
Je pense que ça n'aura aucun impact. C'est plutôt une bonne chose, au demeurant, que les gens s'entendent. Oui. Mais je ne pense pas que la finance islamique en souffre, parce qu'elle est très largement apolitique. Elle n'est pas amorale, elle n'est pas dénuée d'un substrat religieux, ne le nions pas. En revanche, les banques islamiques, je vais en nommer un certain nombre, par exemple Dubai Islamic Bank ou Kuwait Finance House ou Al Baraka Banking Group, n'auront aucun mal à continuer d'acquérir de nouveaux clients indépendamment de cette politique-là. Il y a d'autres phénomènes politiques qui peuvent jeter l'opprobre sur les banques islamiques parce qu'elles sont toujours, dans une certaine mesure, suspectées de sympathie pour des mouvements extrêmes, ce qu'elles ne sont pas, puisque les banques islamiques, comme n'importe quelle autre banque, sont régulées par des banques centrales. Les banques centrales sont religieuses, elles obéissent à des normes, et les banques centrales contrôlent les banques islamiques autant que les banques conventionnelles, voire davantage. Par conséquent, soupçonner une banque islamique d'avoir de la sympathie pour tel ou tel mouvement à vocation violente est une illusion, c'est une vue de l'esprit. Donc, étant apolitique, il est fort peu probable que l'industrie de la finance islamique s'en trouve affaiblie ou au contraire renforcée par un rapprochement de ce type-là. En tout cas, je ne le crois pas.
Merci beaucoup. Merci.
Bonsoir. Je voulais savoir s'il fallait nécessairement être musulman pour pouvoir travailler dans la finance islamique. Est-ce qu'il y a des banques en France ou ailleurs qui pratiquent la finance islamique et qui ne sont pas islamiques de création? Et voilà, c'est tout.
À la première question, la réponse est évidemment non. Vous pouvez parfaitement être un catholique protestant, un catholique pratiquant, un protestant convaincu, athée, déiste, et rejoindre en tant que collaborateur une banque islamique eu égard à votre compétence. Et on a, Kader et moi, beaucoup d'amis qui ne sont absolument pas musulmans et qui font des carrières brillantes dans des institutions de finance islamique, que ce soit des banques, des fonds, des compagnies d'assurance ou des institutions de microfinance. À votre deuxième question, merci de me l'avoir rappelé, car je n'ai pas parlé du concept de fenêtre islamique. Qu'est-ce que c'est qu'une fenêtre islamique? C'est une série de produits qui sont en conformité avec les principes et les valeurs de la finance islamique déployés par une banque conventionnelle. Exemple, la banque où j'ai travaillé, Bank of Tokyo Mitsubishi UFG, c'est une banque japonaise, la plus grande des banques japonaises. On ne peut pas la taxer ni d'islamité et encore moins d'islamisme. Et pourtant, elle pratique la finance islamique depuis 2015. J'ai moi-même contribué à créer cette fenêtre islamique et nous déployons des produits de finance islamique à des clients qui le souhaitent, bien évidemment en Malaisie et dans les pays du Golfe, mais aussi au Maroc. Alors, en France, il existe une banque conventionnelle marocaine, Banque Chahbi. C'est la banque centrale populaire qui propose des produits et des contrats de finance islamique à ses clients, tout en n'étant pas elle-même, par définition et par construction, une banque islamique. Les banques françaises ont des fenêtres islamiques. Par exemple, la BNP a une fenêtre islamique qui s'appelle Najma. Najma en arabe, ça veut dire étoile, en référence à son logo. Et la banque Najma existe au Maroc, mais aussi dans le Golfe Persique et en Malaisie. Donc oui, les banques conventionnelles ont des fenêtres islamiques. Le dernier exemple que je peux vous donner, c'est HSBC, qui a même nommé, à l'instar de Najma de BNP, sa fenêtre islamique qui s'appelle Amana, qui veut dire confiance. Voilà pour la réponse à votre deuxième question.
Non, peut-être. Alors, pour, juste un point à rajouter sur la deuxième question. Toutes les grandes banques françaises ont des filiales de banques islamiques, soit en Asie du Sud-Est ou soit au Moyen-Orient. Et désormais, avec le nouveau marché gigantesque que représente l'Afrique, toute la présence des banques françaises tend à développer des activités de finance islamique en Afrique. Et toutes les banques françaises, hein, donc du Crédit Agricole avec Amundi, BNP, Société Générale, pratiquement toutes sont sur ce marché-là.
Et la BRED, à l'exception du Crédit Mutuel qui n'en fait pas. Voilà.
Un outil d'internation et différenciation sur certains nouveaux marchés.
Je voudrais que tu répètes, Kader, on n'a pas entendu.
Excusez-moi, je disais simplement, c'était un outil d'internationalisation et de diversification, différenciation sur des nouveaux segments de marché en Afrique, pour les banques françaises.
Oui, tout à fait. En particulier les banques globales, quoi, Crédit Lyonnais, Crédit Agricole.
Absolument.
Florence, tu as une question?
Oui, en fait, c'était bonsoir, messieurs. Bonsoir. Merci beaucoup. Désolée si ma question est maladroite. Hein. Elle est relative, effectivement, au financement des lieux de culte en France, puisque c'était un point qui était notamment mis en exergue dans le cadre du projet de loi sur le renforcement des principes républicains, puisqu'il y avait une forme de stigmatisation autour de ça. Je laisse volontairement ma question ouverte et de telle sorte à ce que vous puissiez nous donner votre appréciation sur le sujet. Merci.
Bien sûr. Merci beaucoup, Florence.
Attendez. Est-ce que vous pouvez rapidement répéter, parce que j'ai très mal entendu, moi. Désolé, à noir, parce que là, pour le coup, je n'ai pas entendu.
En fait, c'est une question toute simple et très complexe, j'imagine, en même temps, et ouverte, c'est-à-dire sur le financement des lieux de culte en France qui interpelle, qui inquiète. Quand on entend effectivement les principes, les valeurs telles que vous les décrivez là, on se dit « tout va bien, Madame la Marquise », enfin, si je puis m'exprimer ainsi. Et en l'occurrence, qu'on a essayé d'endiguer grâce notamment à une partie de ce projet de loi, c'était des financements malveillants, on va dire ça comme ça.
C'est une excellente question.
Excellente question.
Oui, un sujet
qui nous passionne beaucoup. Nous passionne beaucoup parce que.
Ouais, et nous connaissons bien ce sujet. Bon, alors, pardon pour la question est courte, mais la réponse sera un peu moins courte. Je m'en excuse. Je vous prie de m'en excuser. Alors, première chose, le financement des lieux de culte en France n'a rien à voir avec la finance islamique. Ce n'est pas du financement. Hein, ce sont la budgétisation des lieux de culte. D'où viennent les financements en France des lieux de culte? Deux grandes sources. La première, les dons des fidèles. La deuxième, les injections de capitaux étrangers. Gardons en tête quelque chose d'important. Les dons des fidèles représentent la très grande majorité du financement des mosquées. En taille.
Il n'y a jamais eu de travail de quantification qui est fait, mais on estime que le flux financier provenant de l'étranger est compris entre 15 et 25%.
Mais ces 15 et 25% sont problématiques, parfois, oui. Puisque ces 15 et 25% ne viennent pas d'institutions privées étrangères, mais d'institutions qui, d'une manière ou d'une autre, sont liées à leurs états d'origine. Hein, c'est en général piloté par les États, même si c'est sous couvert d'ONG, d'associations, de charités, charities, etc. Donc, c'est piloté. Et c'est piloté, là aussi, il faut revenir un petit peu dans les détails, c'est piloté pour deux raisons. Les financements, disons ça, en provenance d'Afrique du Nord, de Turquie et du Golfe. L'Afrique du Nord, c'est essentiellement une modalité, je vais oser un gros mot, de contrôle et d'accompagnement des populations d'origine. Ça, c'est Maroc, Algérie, Tunisie. Bon, la Turquie, c'est pour ça, mais aussi pour d'autres raisons de nature clairement politique. Et puis enfin, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., ce sont pour des raisons idéologiques. En général, pour des raisons idéologiques, qui relèvent du wahhabisme. Le wahhabisme étant une excroissance conservatrice, pour dire le moins, pour dire le peu, d'une forme d'islam, osons le mot, radical. Bon, donc ce sont des financements qui sont minoritaires, mais qui posent des problèmes à la fois de souveraineté et qui posent des problèmes d'interaction politique avec les États d'origine. Mais ça n'a rien à voir avec la finance islamique parce que ce sont des financements sous forme de dons. Alors, dans votre question, il y a aussi une autre question. Y a-t-il des modèles alternatifs ? Oui, il y a des modèles alternatifs. C'est la question des biens d'ordre. Hein, les awqaf, le waqf, qu'on retrouve dans le Larousse, c'est un terme qu'on retrouve dans le Larousse, qui est un instrument, lui, de finance islamique, qui prend la forme d'un fonds, et d'un fonds construit à partir d'un bien de main morte. Ces biens de main morte ont une exigence en droit musulman, c'est celle du nadir, c'est-à-dire une gouvernance beaucoup plus stricte que les simples dons. Et donc, ce que nous proposerions aux autorités publiques, si nous étions mandatés et si nous étions interrogés quant à la meilleure manière d'organiser le financement des lieux de culte et de l'islam de manière générale en France, c'est de rendre contraignant un modèle de main morte, de telle sorte à organiser une gouvernance de ces financements, d'abord une auto-gouvernance, donc un autocontrôle, et puis ensuite de pouvoir organiser de manière juridique et administrative une gouvernance de la gouvernance, des contrôles du contrôleur. Alors, on ne nous a pas demandé, en tout cas pas formellement, mais
on a proposé. On a quand même proposé dans le cadre de nos travaux de recherche avec le ministère de l'Intérieur.
Tout à fait. À l'Université Paris-Dauphine, en tant qu'universitaire, on a la liberté de ton et par conséquent, nous l'avons proposé, même si on ne nous a rien demandé. Voilà, chère madame.
Petite question.
Oui.
Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la finance en Belgique ?
Merci Émile de la question, et bien sûr ce sera répondu, mais est-ce que vous pouvez repréciser ce que c'est cette notion de bien de main morte ? Parce que ce n'est pas forcément clair.
Oui, c'est l'équivalent en islam de la fondation. Donc en l'occurrence, une personne physique ou une personne morale en islam peut constituer sous forme de biens de main morte, c'est-à-dire évacuer de son patrimoine soit un capital numéraire, soit un capital physique, soit un capital mobilier pour une cause sociale. Par exemple, les orphelins, ou les malades, ou les voyageurs, ou l'écologie. Et ce bien étant sorti du patrimoine, il devient un bien au service de l'intérêt général. Et cette constitution en main morte d'un bien suppose, en droit musulman, la nomination d'un gouverneur, c'est-à-dire d'un gérant qui a la responsabilité de l'allocation de ses fonds selon les vœux du donateur. L'existence de ce gouvernant, de ce gérant, suppose qu'il soit lui-même contrôlé, tantôt par la puissance publique, tantôt par une autorité administrative indépendante. Et donc, en constituant un bien de main morte, on se donne l'obligation d'agir selon la volonté du constituant, mais aussi d'être contrôlé à l'aune de cette volonté primaire. Ce qui rend beaucoup plus transparent à la fois les sources de financement, mais aussi l'allocation des fonds. Si en revanche, on ne constitue pas sous bien de main morte, on se retrouve avec des associations qui reçoivent de l'argent dans leur budget, qui échappent dans une très large mesure à la traçabilité des flux et donc qui donnent la possibilité de conditionner le financement à des activités, disons-le, de prosélytisme. Et ça, c'est pas bien, pas en République en tout cas.
Et c'est dans ce sens-là, d'ailleurs, que le ministère de l'Intérieur pousse l'ensemble des associations aujourd'hui qui gèrent les lieux de culte à passer en loi 1905, pour les mêmes raisons de contrôle, de gouvernance et de transparence. Tandis que la condition de la mise en place d'une fondation apporterait cette visibilité sur la transparence et la surveillance définitive de l'allocation et de l'origine des fonds.
Et la loi, valeur de la République actuelle va clairement dans ce sens, puisque ça permet justement de faire
des… Il n'y a pas de contrainte, Xavier. Non, Xavier, il n'y a pas de contrainte pour que les associations de loi 1901 passent sous loi 1905.
Non, mais pour les lois de 1905, il y aura possibilité de faire des dons, par exemple d'immeubles, des choses comme ça. Donc, ça revient à permettre la possibilité…
Ah, pardon. Alors, je reprécise bien, dans la continuité de ce que disait Anouar. Il faut bien comprendre que une grande majorité des associations qui gèrent des lieux de culte sont sous le statut de loi 1901. Donc, les obligations de comptabilité, etc., sont de l'ordre du minime. En passant sous loi 1901. Absolument. Et pratiquement, que ce soit des lieux de culte, mais aussi de la gestion de pèlerinage, passe sous l'association de loi 1901. Donc, une des propositions qui avait été faite, notamment aux Assises de l'Islam de France avec Anouar, qu'on avait fait il y a quelques années, consistait précisément, et on en est très heureux dans le cadre des annonces du ministre de l'Intérieur, c'était de passer le maximum d'associations en loi 1905 pour précisément avoir une meilleure visibilité sur la gouvernance. Ce n'est pas qu'une question de déductibilité des fonds qui sont versés ou déductibilité des dons, etc., d'un point de vue fiscal au niveau des dons. C'est vraiment pour une question de transparence, parce que ça en arrange beaucoup. Et c'est pas propre, hein, c'est qu'à partir du moment où il y a un outil juridique qui permet une certaine forme d'opacité, les gens s'en servent. Mmh. Donc à des bonnes fins ou à des mauvaises fins, on n'est pas là pour c'est pas à nous de le juger, mais en tout cas passer sous le régime de la loi 1905 permet précisément cette obligation comptable de transparence. Et Anouar le précise à demi mot dans ses dires, c'est aussi la volonté de ceux qui fréquentent les lieux de culte de voir plus de transparence et de visibilité sur le circuit des fonds qu'ils allouent à un lieu de culte. Donc, on a toujours l'impression que c'est une problématique qui vient d'en haut, mais c'est aussi une problématique qui vient de la part des utilisateurs et des fidèles. Et cette notion de work-off, c'est pas nouveau. Hein. Harvard, que vous connaissez tous, est financé par work-off depuis des décennies.
C'est une bonne sorte de preuve, oui, tout à fait.
L'université de Harvard.
Pardon ? Harvard, oui.
C'est un trust.
Et tu as semblé regretter que le projet de loi, ne force pas plus le passage de 1901 à 1905.
C'est clair.
C'est ça ? Oui.
C'est clair.
D'accord.
Écoute, moi, je me mets à la place de Midi, aucune déductibilité. Le fait de donner une association de loi 1905 leur permettrait une déductibilité au titre des impôts. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et c'est le souhait de vraiment toutes les parties prenantes, pour le coup, c'est plus de transparence.
C'est clair.
Ce qui est beaucoup plus en ligne avec les principes sous-jacents qu'on a décrits.
Absolument.
Responsabilité, copropriété, tout ça. Et donc, finalement, il y a un certain nombre d'associations, il existe un certain nombre d'associations qui se disent islamiques, mais qui ne le sont pas. Ils le sont facialement pour d'autres raisons, de pilotage externe, ou je ne sais trop quoi. Et donc, il faut mettre de l'ordre là-dedans. Ce n'est pas à nous de le faire, mais on ne peut que suggérer, en tant qu'universitaire, ce genre de choses. Alors, Émile, vous avez posé une question sur la Belgique. Y a-t-il de la finance islamique en Belgique ? La réponse est non, il n'y en a pas. Aucune banque belge ne propose des produits de finance islamique aujourd'hui pour sa population.
Alors, une autre question, je n'ai pas vérifié. Est-il vrai, lors d'une acquisition d'un bien immobilier, la banque, entre guillemets, islamique, leur accorde un prêt à un taux zéro, à condition que les femmes portent le chador ? Je n'ai pas vérifié cette information que j'ai eue depuis quelques jours.
C'est faux. Alors, si une banque islamique fait cela, elle dépasse et elle contrevient très largement aux principes qui la sous-tendent. Comment se passe le financement immobilier dans une banque islamique ? La banque achète le bien le notaire étant témoin de l'acquisition, et ensuite revend le bien immobilier qu'elle a acheté ou qu'elle a contribué à faire construire sur ses propres deniers à son client. Il n'y a pas de condition quant au mode de vie. Il n'y a aucune condition quant à la nationalité, la tradition religieuse ou la pratique religieuse des habitants. Il n'y a aucune condition sur les mœurs. C'est simplement une cession, une vente d'un bien immeuble au client, cette cession se faisant à tempérament, c'est-à-dire à l'aune d'un échéancier qui est contractuellement défini. En aucune manière, le taux de marge de la banque n'est de zéro. Le taux de marge est strictement positif. Alors, il peut être inférieur au taux d'intérêt pratiqué par la banque conventionnelle, égal ou supérieur. Cela dépend de la stratégie de tarification de la banque en question. Mais il n'y a pas de condition liées au mode de vie du ménage qui s'y installe. Non, cela n'existe pas. Alors, est-ce de la désinformation ou, comme on dit aujourd'hui, une fake news ou autre chose? Ou bien est-ce la réalité dans une banque qui se dit islamique en particulier? Mais ce n'est clairement pas la généralité.
Je vous remercie et fier de l'être en tant que Marocain, ayant vécu au Maroc, et un ancien de Dauphine.
Ah ben, nous avons deux caractéristiques en commun. Marocain et dauphinois.
Merci.
Et probablement bien plus si l'échange se prolongerait. Bon.
Merci Xavier.
Elisabeth a une question.
Ah oui, j'ai encore une question. Vous nous avez dit tout ce qu'il était interdit de faire a priori avec l'argent dans les banques islamiques. Est-ce qu'elles sont particulièrement investies sur la finance durable? Et puis, est-ce qu'il y a des problèmes de blanchiment malgré tout? Vous n'avez pas cité la drogue, mais le tabac et les armes. Est-ce que, voilà, est-ce qu'elles ont des actifs qui sont moins bien placés que d'autres?
Ou est-ce qu'il y a eu des scandales, quoi?
Est-ce qu'il y a eu des scandales, oui.
Rappelez-moi votre première question, s'il vous plaît, Isabelle.
C'était
la finance verte.
Finance verte.
Alors, moi, je vais répondre à ça. Non, alors pour être très franc, elle est verte, mais elle est verte très claire, quoi. Très, très claire. Elle est verte dans le fond par la couleur de la religion, soi-disant, mais sur la pratique concernant l'environnement. Aujourd'hui, depuis quelques mois, depuis un peu plus d'un an d'ailleurs, la Banque islamique de développement a signé le Global Compact de l'ONU pour les objectifs du millénaire. Donc, il commence à avoir une sérieuse prise de conscience de la part des acteurs de la finance islamique de s'investir sur le champ des ODD, du Global Compact, et d'être signataire aujourd'hui. Donc, entre 2007 et 2017, à Noir, hein, on peut dire qu'elles étaient vraiment un petit peu à l'ouest de ce sujet et commencent aujourd'hui un petit peu à revenir un petit peu au centre du jeu, donc en signant les ODD déjà de la part de la Banque islamique de développement. Donc, ça, c'est plutôt un pas assez gigantesque. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'ensemble des participations dans lesquelles la Banque islamique de développement a des parts, donc plusieurs banques en Afrique, vont être obligées de suivre ces questions d'environnement et d'objectifs du développement durable. Donc, pour répondre à votre question, jusqu'à très récemment, elles étaient un peu loin de ces problématiques de développement durable. Et aujourd'hui, elles commencent à s'y mettre et très sérieusement. Pour la question numéro 2, donc à Noir, c'était…
Blanchiment.
Y a-t-il déjà eu des scandales de blanchiment? Alors, moi, Noir, de mon côté, le seul en tête que j'ai, c'était le changement de nom de notre banque qui s'appelait Nour Islamic Bank, à Dubaï.
Ouais.
Voilà. Donc, qui a dû d'ailleurs changer de nom par la suite, il y a quelques années, et qui avait été suspecté par le département. Département d'État américain il y a vraiment quelques années, mais vraiment suspecté, il n'y a pas eu de preuves flagrantes de blanchiment en finance mixte. Et encore, c'est un petit scandale sur lequel aujourd'hui vous pouvez faire quelques recherches sur Internet et vous verrez qu'il n'y a jamais eu de preuves flagrantes sur ce sujet-là. Étant toutes régulées, extrêmement bien régulées par les banques centrales, dans le cadre de la finance islamique, il n'y a jamais eu de scandale à proprement parler de finance islamique, à part cette petite histoire de Nourban qui a, comme je vous disais, peu eu d'impact. Je ne sais pas, Noir, tu as d'autres exemples dans ta tête, oui, à part Nourbank
qui lui a valu son rachat par la Dubai Islamic Bank. Non, très peu de cas de blanchiment, quasiment pas. Pour une raison simple, c'est que les grandes banques islamiques qui ont pignon sur rue sont régulées par des régulateurs très puissants, très intrusifs et assez peu enclins au laxisme, que ce soit en Malaisie, aux Émirats, au Qatar, en Arabie Saoudite et autres. D'ailleurs, si un client, je vais l'appeler comme ça, était tenté par du blanchiment d'argent avec la complicité de son banquier, ce n'est pas vers une banque islamique qu'il se tournerait de manière naturelle. Il se tournerait davantage dans des banques, oui, dans des paradis fiscaux ou dans des zones à faible régulation. J'entends par là, sans nommer personne, certains pays d'Asie du Sud et certains pays des Caraïbes. C'est plutôt davantage là que ça se passe, plutôt que dans le secteur de la finance islamique. Il arrive aussi parfois qu'à l'insu des grandes banques, le blanchiment d'argent se fasse dans zones beaucoup plus connues, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Ça arrive, mais en général, c'est détecté.
J'aurais encore une question, si vous permettez, très pratico-pratique. Oui. Par rapport à ce que vous exposiez, avec d'un côté, donc, je prends la première des interdictions, l'interdiction de l'intérêt, et ce que vous expliquiez sur la manière d'acheter un immeuble, où finalement la banque achète l'immeuble au profit de celui qui va du client, et puis lui revend, forcément en faisant un bénéfice, parce que sinon la banque ne survit pas. Et donc ma question, c'est est-ce que par rapport à ça, finalement, on n'a pas simplement un artifice qui produit quand même de l'intérêt. Je voudrais bien comprendre qu'est-ce qu'il y a, en quoi derrière c'est plus éthique que le fait de faire un simple prêt avec intérêt.
Alors, c'est éthique du point de vue de l'islam, encore une fois. Hein. Le principe de no riba, le principe de pas d'intérêt est corollaire du principe d'existence d'un actif sous-jacent. Donc, c'est l'actif sous-jacent qui rend la transaction charia compliant. Et donc, ce qui est capturé par la banque, c'est une marge en tant que marchand de biens et non pas simplement une rémunération du crédit. En finance conventionnelle, on finance un ménage qui, lui, va se présenter devant le notaire pour signer la transaction d'achat. La dette, elle est portée par le ménage. En revanche, ici, l'actif, il est réellement cédé au client qui en devient propriétaire. Ce qui nous amène, en corollaire, encore une fois, de la question que vous posez, quel est le statut de l'intérêt? C'est quoi un taux d'intérêt? Un taux d'intérêt, il faut le comprendre de la manière suivante. Si vous avez 100 euros en poche le 1er janvier, vous avez deux choix. Vous pouvez acheter un costume, non, le costume, ce n'est pas 100 euros. Vous pouvez acheter deux chemises Van Lag à 50 euros chacune. Donc, vous avez consommé, vous êtes très content. Il y a une valeur d'usage du bien que vous avez, mais vous avez perdu vos 100 euros. Donc, vous n'êtes pas frustré, puisque vous avez consommé les chemises que vous souhaitiez. Vous avez assouvi votre volonté de consommation. Si, en revanche, vous faites le choix de ne pas acheter vos deux chemises, donc vous êtes frustré de l'absence de ces deux chemises dans votre dressing, mais il vous reste 100 euros que vous allez placer sur un compte à terme et qui va vous servir une rémunération. La rémunération de ce dépôt, qui était de 2%, qui est aujourd'hui de 0,25% si c'est un livret A, la rémunération de cette épargne, donc de cette non-consommation, c'est la rémunération de votre frustration. Un taux d'intérêt, ça n'est rien d'autre que la rémunération de votre frustration. L'islam dit, votre frustration n'est pas à être rémunérée. En revanche, ce qu'on doit rémunérer, c'est le travail et la prise de risque. Et comment on va rembourser le ménage qui achète la maison avec l'aide de la banque islamique, avec cet échéancier contractuel dont nous avons parlé tantôt, la rémunération de la banque se fait par le travail de sa contrepartie et son travail à elle. Donc finalement, on se trouve dans une situation où, en finance conventionnelle, le taux d'intérêt rémunère la frustration. En finance islamique, le taux de marge rémunère le co-travail de la banque et de son client. Conceptuellement, c'est ça. En pratique, la différence vient de l'existence d'un actif sous-jacent qui est d'abord acquis par la banque et puis ensuite revendu à son client. Mais c'est vrai que la proximité est telle que parfois, sur le terrain pratico-pratique, comme vous avez dit, en général, les clients considèrent que le contrat de Murabaha que vous venez de parler est très proche d'un financement par intérêt. Mais attention, le contrat de Murabaha n'est pas le seul contrat que l'on utilise en finance islamique. C'est un des 14 contrats. Voilà, cher monsieur, ce long détour conceptuel pour répondre à une question qui, en fait, était conceptuelle et non pas pratico-pratique. Je ne me suis pas laissé berner par vous, cher ami.
Peut-être une petite dernière avant de reprendre la route, oui, pour ceux qui sont en tout cas ici. Puisqu'on a parlé de la finance, la problématique de financement de l'islam en France, je vous aviez largement creusé aussi la question de taxes sur les produits halal. Puisque c'est une idée qui circulait à un moment, hein, de taxes sur les produits, ouais. Les marchés halal qui auraient permis de dégager de la finance pour qui construire des mosquées, qui former les imams, etc. Quel était votre avis là-dessus?
Bon, si je peux me permettre, il y a un rapport de la sénatrice Nathalie Goulet, hein, si j'espère pas écorcher son nom, c'est bien ça?
Sénatrice de l'Orne, je crois d'ailleurs. Hein.
Absolument, je ne sais plus.
Dominique me corrigera, Dominique Delage. Et Guillaume également.
Oui, je confirme, elle est de l'Orne.
Bon, la sénatrice de l'Orne avait fait un rapport dans lequel plusieurs des intervenants de FIN avaient été interviewés pour répondre à ces questions sur la taxe. Qu'on sait, bon, alors, pour le coup, on peut répondre assez simplement, je pense, à cette question-là. C'est infaisable. C'est juste infaisable. Encore faudrait-il, en plus de tout ça, à la différence de nos co-religionnaires juifs, avoir une entité qui centralise. Donc, je pense que vous avez tous compris dans cette présentation à quel point c'est atomisé. Chacun y va de sa propre certification. Il n'y a pas une centralisation. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, non?
Oui, on ne t'entendait pas bien. Donc, je répète, un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas de centralisation, c'est atomisé.
Absolument. C'est atomisé, donc chacun y va de sa propre certification. Lyon a sa certification, Paris a sa certification. Vous allez en Bretagne, vous avez une certification. Donc, la question d'une taxe sur la viande halal, même d'un point de vue fiscal, hein, nos collègues de l'Université des Amis Fiscalistes nous disent que c'est clairement injouable. Et le rapport Goulet l'explique assez facilement. Donc, je pense que ça, ce n'est pas jouable en réalité. La même question, et je vais plus loin dans ta question, Xavier, c'était une taxe sur le pèlerinage aussi.
Exact. Oui.
Alors, une taxe sur le pèlerinage aussi, c'est pas jouable. C'est pas jouable. Personne ne paiera parce que personne ne voit l'utilité pour le coût de payer une taxe. Déjà que le coût du pèlerinage revient de plus en plus cher d'année en année. Bon, là, c'est encore plus simple. On ne peut pas faire le pèlerinage à la Mecque en Zoom. Donc, il n'y a plus personne qui part depuis l'année dernière. Cette année, c'est pareil. Donc, la question de taxes, autant sur le pèlerinage que sur la viande halal, ça ne fonctionnera pas. De toute façon, ça n'a pas de fondement juridique. Donc, clairement, donc c'est pas par là que il ne manque pas d'argent. Il faut bien comprendre qu'il ne manque pas d'argent sur cette question d'islam. Il manque juste un peu plus de transparence et de structuration du financement. Ce n'est pas de l'argent dont il manque. Il y a juste une mauvaise allocation et une mauvaise utilisation. C'est différent. La question de la taxe, ça fait bien des années qu'on en parle et ça ne verra pas le jour.
Oui.
On en a un peu conscient. Beaucoup poussent pour cette taxe-là, mais au niveau des utilisateurs, c'est clair et net, ça ne suivra pas. Je pense notamment au conseil du Hedge, un noir qui me corrige. C'est ça, le conseil du Hedge de France, de l'ensemble des acteurs qui sont impliqués sur le pèlerinage. Clairement, c'est de savoir qu'eux n'interviendraient pas là-dedans. Et sur la viande halal, le débat est resté le même depuis des années. Donc, ça n'a pas bougé. Voilà. Je ne pense pas que sur la question de la taxe halal, on arrivera à quelque chose. c'est pas le, je pense pas que ce soit le moyen pour aider le financement de l'islam de France. Anouar l'a bien expliqué avec le WACAF, et je pense que le WACAF, c'est précisément ça qui pourra permettre une meilleure allocation des actifs. Il manque, comme on l'avait dit, l'histoire de derrière, c'est pas de l'argent dont il manque. C'est juste des bons gestionnaires et une optimisation des actifs. C'est, n'est-ce pas, Anouar?
Oui, oui, et puis les fondements juridiques sont fragiles. Hein. Le principe d'égalité devant l'impôt va souffrir assez considérablement face à ça. Sans compter les conséquences politiques de stigmatisation de cette consommation qui n'est pas de bon aloi en ce moment.
Ok, très clair.
Voilà, Xavier.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... On peut vous remercier vous très, très chaleureusement et vous applaudir pour cette excellente conférence.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Chers amis. Toujours un plaisir, Xavier.
Complètement partagé, vraiment.
Très content de vous rendre visite, même virtuellement.
Oui. Oui. Et, écoute, on espère qu'on aura des jours plus présentiels bientôt.
On l'espère aussi.
Voilà, et il y aura quelques petits événements en juin, IHEMR, quelques petites fêtes, vous serez invité, donc vous pourrez à ce moment-là faire la connaissance de tout le monde, connaissance en réel.
Avec grand plaisir, mon ami.
Xavier.
Voilà.
Alors, la présentation, Xavier, on échangeait sur le chat tout à l'heure, la présentation peut être envoyée.
Oui, bien sûr, d'accord, ce sera fait.
Et, ouais. nos emails respectifs, tu peux les envoyer aussi.
Également, d'accord.
Donc, si un ensemble d'auditeurs a des questions ou a besoin de sources ou de documentation sur le sujet de l'islam, de financement islamique ou de financement de l'islam de France, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter.
Parfait. Un grand merci à vous.